VOA Afrique, les infos à Washington.
John Linden à la présentation. Bonsoir à tous. Et cet appel du pape lancé à Madagascar, le souverain pontife a poussé samedi un cri d'alarme face à la déforestation excessive au temple mois de l'île de Madagascar qu'il visite, donc en suggérant à ses autorités de créer des emplois respectueux de l'environnement pour sortir la population d'une précarité parfois inhumaine. Dès son premier discours sur le territoire malgache, le souverain pontife est entré dans le vif du sujet en encourageant ses responsables politiques, civils et religieux à lutter contre la corruption et la spéculation qui augmentent la disparité sociale. Très sensible à la préservation de la planète qu'il qualifie de maison commune, le pape s'est montré particulièrement préoccupé par la déforestation excessive qui sévit sur la grande île. Le fils de l'ancien président angolais, José Eduardo dos Santos, sera jugé à partir du 25 septembre devant un tribunal de la capitale Luanda dans une affaire de corruption. Il s'agit du tout premier procès visant un membre de la famille de l'ex-maître absolu du pays, ancien patron du fonds d'investissement souverain angolais. José Filomeno dos Santos est accusé avec trois autres complices, dont l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Walter Filippo da Silva, des détournements de fonds et de blanchiment d'argent.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et on parle de la mort, on reparle de la mort donc de Robert Mugabe, héros de l'indépendance. Il a tenu le Zimbabwe d'une main de fer durant 37 ans. L'ancien président Robert Mugabe est décédé vendredi à 95 ans à Singapour, moins de deux ans après avoir été renversé. De nombreux pays africains ont rendu un hommage appuyé et unanime au libérateur du Zimbabwe. Eric Manirakiza a recueilli la réaction d'Amara Issi, ancien ambassadeur ivoirien à l'ONU qui a bien connu Robert Mugabe.
Je l'ai connu puisque j'étais ambassadeur aux Nations Unies. On avait affaire à tous les mouvements de libération, que ce soit la SWAPO, que ce soit l'ANC. Il était souvent avec nous et c'est un homme de conviction. Et il avait du courage. Il disait franchement ce qu'il avait à dire. L'une des figures proues de la lutte pour la décolonisation. Comme dit l'adage, même si on n'aime pas le lièvre, il faut savoir qui sait courir. En tout cas, c'est une personnalité, un patriote, un défenseur des droits des peuples africains, un père, un grand homme. Il a été un key player pour non pas seulement le Zimbabwe, mais pour tous les mouvements. Libération en Afrique australe. À l'époque, on était souvent avec lui, avec Makatini de l'ANC, Ben Gurirab, la SWAPO, des figures vraiment qui ont fait la fierté de l'Afrique.
C'était quel genre de personnalité et comment ses pairs l'ont considéré?
Je ne dirais pas qu'il était craint, mais disons que sa voix comptait. C'est le seul qui n'hésitait pas à mettre les pieds dans le plat quand il fallait le faire. Je crois pour lui, la dignité de l'Afrique passait avant tout. L'honneur, la dignité de l'Afrique, et je crois que c'était son credo et ça, c'est important parce qu'en fin de compte, ce sont des valeurs qu'on a perdues aujourd'hui. Dans toutes les réunions, il ne passait pas inaperçu. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, il a marqué son temps.
En ce qui concerne l'accord de Manchester House sur le financement de l'expropriation de la réforme agraire, des promesses britanniques non tenues.
Oui, c'est ce qui a motivé, disons, la nationalisation de toutes ces propriétés. Est-ce que ça a été une bonne chose? Mais en fin de compte, apparemment, les Britanniques étaient un peu responsables. Tout le monde dit que, bon, qu'en fin de compte, ils n'ont pas tenu leur engagement. On a vu les conséquences dommageables après pour les Zimbabwe. Donc, de part et d'autre, les responsables sont partagés. Le côté britannique n'a pas créé les conditions pour que vraiment les choses puissent évoluer telles qu'ils avaient été planifiées. Et d'un autre côté aussi, bon, cette nationalisation des propriétés qu'on a donnée à des gens qui n'ont aucune culture de fermier. Donc il y a eu des conséquences vraiment négatives sur l'économie du Zimbabwe. C'est dommage. Je crois que d'ailleurs cela a servi d'exemple à la situation en Afrique du Sud. Ce sont des leçons qu'il faut tirer de tout ce qui a été fait de positif et de négatif.
Quelle aura été l'erreur, disons, de Mugabe?
C'est avoir nationalisé les terres des fermiers blancs et le donner à des personnes qui n'ont aucune connaissance d'agriculteurs. On ne peut pas improviser, il fallait les former. Ça n'a pas été fait, donc ça a été une erreur. Sous Ian Smith, la Rhodésie du Sud était vraiment le grenier de l'Afrique. Avec l'embargo, avec les sanctions, Ian Smith avait vraiment développé une économie auto-centrée, autonome, dans tous les domaines. Donc ils avaient quand même un capital à hériter pour avancer. Donc malheureusement, les choix politiques n'ont pas été conséquents. Et ce sont des erreurs qui ont été commises. Bon, l'Afrique du Sud peut-être va inspirer dans le cadre de la promesse faite aux Noirs de leur accéder des terres. Mais je suis optimiste parce que je ne dirais pas que le chemin malheur est bon, mais en fin de compte, il y a eu beaucoup d'exilés des Zimbabwe à l'extérieur et vraiment.
Fin de ce bulletin d'information présenté par John Linden. Merci d'avoir suivi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.